Silence et gâteau de miel, la sagesse du désert.
Bonjour et bienvenue. Nous sommes le vendredi 5 mars. Aujourd'hui, notre méditation avec l'écriture et avec les pères du désert portera sur la diversité des vocations et les dangers de l'individualisme et de l'uniformité. Nous y entrons avec le psaume 105. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Il appela sur le pays la famine, le privant de toute ressource. Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On lui met au pied des entraves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur, jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples, qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Et nous entendons la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 21, les versets 33 à 43, puis 45 et 46. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il y planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant : Ils respecteront mon fils. Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : Voici l'héritier. Venez, tuons-le, nous aurons son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond : Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit : N'avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Louange à toi, ô Christ. Rowan Williams, Silence et gâteau de miel, chapitre 2. Silence et gâteau de miel, septième partie. Un saint, ce n'est pas quelqu'un qui nous fait penser « Qu'est-ce que ça a l'air difficile ? Quel accomplissement héroïque de la volonté ! » Ce qui est inévitablement accompagné d'un « C'est trop dur pour moi ». Au contraire, c'est quelqu'un qui nous fait penser « C'est stupéfiant ! » Ainsi, une vie humaine peut vraiment ressembler à ça. Un tel comportement peut avoir l'air tout à fait naturel. Et peut-être, avec cette autre idée, Comment est-ce que je pourrais trouver ce qu'ils ont trouvé? Les vies des saints sont pleines de ces incidents qui montrent avec une clarté limpide comment un comportement extraordinaire peut s'exprimer dans des situations de pression extrême, sans aucun effort apparent. John Fisher, évêque de Rochester, devait être exécuté pour son refus d'approuver la politique du roi Henri VIII. On le réveille le matin de son exécution pour lui dire que le moment de sa décapitation avait été repoussé de 2 heures. Et il répond que dans ce cas, il aimerait bien qu'on le laisse dormir encore un peu. Quelques années plus tard, on demande au martyr protestant John Bradford, au matin de son exécution à lui, s'il a peur, s'il se sent perturbé. Et il réplique qu'il a si bien dormi qu'il n'a rien entendu des chansons bruyantes qui, lui dit-on, ont été chantées dans la cellule d'à côté. Et plus récemment, il y a l'histoire d'Edith Stein, religieuse carmélite et juive convertie, que la Gestapo arrête en Hollande. Quand l'officier en charge la salue du Heil Hitler habituel, elle répond simplement par l'ancienne formule de salutation monastique « Laudetur Jesus Christus »« Loué soit Jésus-Christ ». Tous ces exemples nous montrent ce que Vladimir Lossky entend par une action personnelle. Toutes ces réactions sont mémorables, uniques, on pourrait même dire originales. Elles viennent d'individus qui ont été pleinement eux-mêmes, mais semblent n'avoir aucune position individualiste à défendre. En pensant à ces personnes, on voit mieux comment distinguer ce qui est réellement personnel de ce qui est simplement individuel. Et on voit aussi pourquoi il nous faut faire ce genre de distinction, si nous voulons vraiment comprendre ce que les pères et mères du désert ont à dire au sujet de la vocation et de la sainteté. Cela nous aide aussi, une fois de plus, à voir que la littérature du désert a des choses importantes à dire à propos du type de communauté que l'Église est, pourrait être ou devrait être. Une communauté qui ne fait que réunir des individus n'est pas vraiment une communauté. C'est simplement un lieu où des égaux s'affrontent pour remporter l'avantage, entrent en compétition pour s'emparer des mêmes biens, et sont unis par un ensemble de règles acceptées avec réticence pour limiter les dégâts. Mais une communauté où tout le monde aurait été formé sur le même modèle de conformité, si bien que tous voudraient ce qu'on leur dit de vouloir, et où tous marcheraient au pas, aurait aussi ses problèmes. Il y aurait une surveillance mutuelle constante pour vérifier l'unanimité, une sensation constante d'être sous surveillance. C'est la route qu'ont suivi bien des sociétés au cours du siècle passé. L'Église est appelée à être une communauté de personnes par excellence, au sens dont nous avons parlé ces derniers jours. C'est un lieu où des vocations uniques peuvent être découvertes de telle sorte qu'elles sont une source de joie intense et d'enrichissement mutuel, pas une menace. C'est un lieu où nos vraies différences humaines sont nourries. Je ne parle pas ici du fait évident que l'Église devrait se faire accueillante pour des personnes de toute couleur de peau et de toute culture, mais du fait qu'elle devrait savoir collaborer avec le caractère unique des dons personnels et des histoires personnelles. Une église en bonne santé, c'est une église qui montre une diversité évidente dans ce domaine, et où les personnalités originales ou même étranges abondent. On a souvent dit la même chose au sujet des communautés monastiques, même si on l'a parfois dit en serrant les dents. Une église malsaine, c'est un groupe dans lequel l'unité de l'Église a été réduite à une homogénéité d'opinion et d'habitude, si bien que, par exemple, certains styles de dévotion, ou certaines expressions de ce que Dieu représente pour telle ou telle personne sont regardées de travers. Un lieu où la vertu devient synonyme d'une banalité qui fuit la controverse. Un lieu où il y a une certaine ressemblance nerveuse, dont la manière dont les gens parlent, s'habillent, etc. Gardons-nous de penser que ce problème est plutôt celui d'un bord que de l'autre, ou plus généralement, que c'est leur problème plutôt que le nôtre. Nous prions. Qui es-tu, Dieu créateur, pour avoir inventé la vie, pour avoir voulu que chaque être humain soit unique? Qui suis-je? Qui désires-tu que je devienne? Car je ne suis pas seulement le résultat d'un passé, je suis un homme en devenir. À tes yeux, ma destinée est unique. Merci Seigneur Dieu pour l'avenir que tu ouvres devant moi. Amen.